Bienvenue, aujourd'hui nous sommes le 20 juillet. Je m'appelle Hervé et avec Sabelle, nous sommes heureux de vous accueillir au studio de la Daily Audio Bible. Vous le savez, quelle que soit l'heure du jour où vous nous écoutez, il y a quelqu'un quelque part qui écoute la Daily Audio Bible en même temps que vous. Des fois, il est bon de savoir que nous ne sommes pas seuls dans cette incroyable aventure qu'est la lecture de la Bible ensemble avec la DAB. Ayant terminé le premier livre des Chroniques hier, nous entamons aujourd'hui donc le second. Le 5 juillet, je vous ai fait une introduction aux deux livres en même temps, car 1 Chronique et 2 Chroniques formaient à l'origine un seul et même livre, qui nous donne la perspective des prêtres sur ce qui se passait. Comme vous le savez, Sabelle nous lit de la Bible en français courant, et sans dire davantage, eh bien je le laisse faire, c'est elle qui nous lit, donc Sabelle, c'est à toi.
2 Chroniques, chapitre 1 au chapitre 3, verset 17. Salomon, fils de David, affermit son autorité royale. Le Seigneur, son Dieu, fut avec lui et fut de lui un roi prestigieux. Salomon convoqua tous les Israélites, en particulier les commandants de régiments et de compagnies, les juges et tous les chefs de famille qui étaient des notables israélites. Avec tous ceux qui se rassemblèrent auprès de lui, il se rendit au lieu sacré de Gabaon. Là, en effet, se dressait la tente de la rencontre avec Dieu, que Moïse, le serviteur du Seigneur, avait fabriquée dans le désert. David avait ramené le coffre sacré de Dieu que Kiriath Yéharim à Jérusalem et l'avait déposé à l'endroit préparé à cet effet, sous une tente. Mais il avait placé l'autel de bronze fabriqué par Basaléel, fils d'Uri et petit-fils de Hur, devant la tente du Seigneur à Gabaon. C'est là que Salomon et tous ceux qui l'accompagnaient vinrent consulter le Seigneur. Salomon s'avança devant le Seigneur et offrit 1000 sacrifices complets sur l'autel de bronze, proche de la tente de la rencontre. Durant la nuit suivante, Dieu lui apparut et lui dit « Que pourrais-je te donner ? Demande-le-moi. » Salomon lui répondit « Seigneur, tu as manifesté une grande bonté envers mon père David. Et maintenant tu m'as désigné comme roi pour lui succéder. Alors, Seigneur Dieu, réalise la promesse que tu as faite à mon père. Tu m'as établi roi d'un peuple aussi nombreux que les grains de poussière de la terre. Veuille donc me donner sagesse et discernement pour que je sache remplir cette tâche à la tête de ce peuple. Sans cela, personne ne pourrait gouverner ton peuple qui est si grand. » Dieu dit à Salomon, « Tu n'as demandé ni de devenir très riche, ni d'être couvert de gloire, ni que tes adversaires meurent, ni même de vivre longtemps. Selon ton désir profond, tu as demandé sagesse et discernement afin de pouvoir gouverner mon peuple dont je t'ai fait roi. C'est pourquoi tu recevras la sagesse et le discernement. Et en plus, je te donnerai de grandes richesses et de la gloire. Tu en auras plus que n'importe quel autre roi, avant toi ou après toi. » Salomon quitta alors le lieu sacré de Gabaon, où se trouvait la tente de la rencontre, et regagna Jérusalem pour y remplir sa tâche de roi d'Israël. Salomon rassembla des chars de guerre et des chevaux. Il eut 1400 chars et 12 000 chevaux, dont il garda un certain nombre auprès de lui à Jérusalem, alors que les autres étaient répartis dans les villes aménagées à cet effet. Grâce au roi, il y avait autant d'argent et d'or que de cailloux à Jérusalem. Et les cèdres étaient aussi nombreux que les sycomores qui poussent dans le bas pays. Les chevaux de Salomon provenaient d'Égypte et de Cilicie, où des marchands allaient les acheter pour le roi. Ces marchands importaient d'Égypte un char pour 600 pièces d'argent et un cheval pour 150 pièces. Ils en importaient aussi pour les rois des Hittites et pour les rois de Syrie. Salomon décida de construire un temple sacré au Seigneur, ainsi qu'un palais royal pour lui-même. Il enrôla 70 000 porteurs et 80 000 tailleurs de pierre pour travailler dans la montagne sous les ordres de 3600 surveillants. Salomon envoya à Hiram, roi de la ville de Tyr, le message suivant. « Tu as fourni du bois de cèdre à mon père David pour qu'il puisse se construire sa résidence. Agis de même envers moi. Je suis en effet sur le point de construire, en l'honneur du Seigneur mon Dieu, un temple qui lui sera consacré. On y brûlera pour lui les offrandes de parfums. On y exposera sans interruption les pains sacrés et l'on y offrira les sacrifices complets, matin et soir, ainsi que les jours de sabbat, le premier jour de chaque mois et les autres jours de fête du Seigneur notre Dieu. Ces règles données aux Israélites sont valables pour toujours. Or, le temple que je veux construire doit être grandiose, car notre Dieu est plus grand que n'importe quel Dieu. En fait, personne ne pourrait lui construire une demeure, puisque le ciel, malgré son immensité, ne peut déjà pas le contenir. Moi-même, je ne prétends pas lui construire une demeure, mais seulement un lieu de culte où on lui offrira des sacrifices. Eh bien donc, envoie-moi un spécialiste du travail de l'or, de l'argent, du bronze et du fer, qui sache aussi apprêter les étoffes teintes en rouge, en cramoisi ou en violet, et qui connaisse l'art de la gravure. Il travaillera avec mes propres spécialistes, ceux que mon père David a désignés et qui habitent Jérusalem ou ailleurs dans le pays de Juda. Fournis-moi aussi du bois de cèdre, de pin et de santal en provenance du mont Liban. Je sais que tes bûcherons sont compétents pour couper les arbres du Liban. Mes ouvriers iront aider les tiens. Ils me prépareront ensemble une grande quantité de bois, car le temple que je veux construire sera particulièrement majestueux. De mon côté, je fournirai pour tes bûcherons occupés à couper les arbres 6000 tonnes de semoule de blé, 6000 tonnes d'orge, 800 000 litres de vin et 800 000 litres d'huile. Hiram, roi de Tyr, répondit par écrit à Salomon. C'est parce que le Seigneur aime son peuple qu'il t'en a fait le roi. Il faut remercier le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui a créé le ciel et la terre, car il a donné à David un fils plein de sagesse, de bon sens et d'intelligence, capable de construire un temple pour le Seigneur, ainsi qu'un palais royal pour lui-même. Eh bien maintenant, je t'envoie un spécialiste particulièrement doué, Huram Abi. Il est tyrien par son père, mais originaire de la tribu de Dan par sa mère. Il sait travailler l'or, l'argent, le bronze, le fer, la pierre, le bois, et apprêter les étoffes teintes en rouge, en violet ou en cramoisi, et celles de lin fin. Il connaît aussi l'art de la gravure. Il saura même élaborer n'importe quel projet qu'on lui confiera. Il travaillera avec tes propres spécialistes et avec ceux que ton père, le roi David, avait désignés. De ton côté, envoie-nous le blé, l'orge, l'huile et le vin dont tu nous as parlé. Nous irons couper sur le mont Liban tous les arbres dont tu as besoin et nous te les amènerons par mer, assemblés en rang radeau jusqu'à Jaffa. De là, tu pourras les faire transporter à Jérusalem. Salomon enrôla tous les hommes d'origine étrangère qui résidaient en Israël, d'après le dénombrement effectué par son père David. Il y en avait 153 600. Il en désigna 70 000 comme porteurs, 80 000 comme tailleurs de pierre dans la montagne et 3 600 comme surveillants pour organiser le travail de tout le monde. Salomon entreprit de construire le temple du Seigneur à Jérusalem, sur le mont Moria, là où le Seigneur était apparu à son père David. David y avait préparé un emplacement sur l'aire du Jébusite Ornan. Salomon régnait depuis 4 ans lorsque les travaux débutèrent pendant le second mois de l'année. Voici les dimensions fixées par Salomon pour la construction du temple de Dieu. 30 mètres de long et 10 mètres de large. Le vestibule d'entrée par devant avait 10 mètres de large, comme le temple, et 60 mètres de haut. On en recouvrit tout l'intérieur d'or pur. Sur les murs de la grande salle, on appliqua des planches de pin recouvertes d'or fin, où l'on représenta des palmes et des chaînettes. On décora encore cette salle au moyen de pierres précieuses. Quant à l'or qu'on employait, il provenait de Parvaïm. On recouvrit d'or même les poutres, les seuils, les murs et les portes de la salle, et on grava des chérubins sur le mur. On construisit également la salle appelée lieu très saint. Elle avait 10 mètres de large comme le temple et 10 mètres de profondeur. On utilisa 20 tonnes d'or fin pour en revêtir l'intérieur. Les clous d'or utilisés pesaient 500 grammes. Même les chambres supérieures furent recouvertes d'or. On façonna ensuite 2 chérubins en métal fondu. On les recouvrit d'or et on les plaça dans le lieu très saint. Les chérubins se tenaient debout côte à côte, la tête tournée vers l'entrée. Chacun d'eux avait 2 ailes déployées de 2,5 mètres, dont l'une touchait un mur de la salle et la seconde touchait l'aile de l'autre chérubin. Leurs 4 ailes ainsi déployées s'étendaient donc sur 10 mètres. On tissa aussi un rideau de lin fin, teint en violet, rouge et cramoisi, sur lequel on broda les chérubins. On fit 2 colonnes hautes de 17 mètres, à placer devant le temple. Au sommet de chacune se trouvait un chapiteau de 2,5 mètres de haut. On fit des chaînettes qu'on plaça au sommet des colonnes, puis on fit des décorations représentant des fruits de grenadine, 100 qu'on suspendit aux chaînettes. On dressa les colonnes devant le sanctuaire, l'une à droite et l'autre à gauche de l'entrée. On appela celle de droite Yakin, ce qui signifie « Dieu a fermé », et celle de gauche Boaz, en Dieu et la force. Romains 6, versets 1 à 23. Que faut-il en conclure ? Devons-nous continuer à vivre dans le péché pour que la grâce de Dieu soit plus abondante ? Certainement pas. Nous sommes morts au péché. Comment pourrions-nous vivre encore dans le péché ? Ne savez-vous pas que nous tous, qui avons été baptisés pour être unis à Jésus-Christ, nous avons été baptisés en étant associés à sa mort ? Par le baptême donc, nous avons été mis au tombeau avec lui, pour être associés à sa mort, afin que tout comme le Christ a été ramené d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivions d'une nouvelle vie. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous serons également unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. Sachons bien ceci, l'être humain que nous étions auparavant a été mis à mort avec le Christ sur la croix, afin que notre nature pécheresse soit détruite et que nous ne soyons plus les esclaves du péché. Car celui qui est mort est libéré du péché. Si nous sommes morts avec le Christ, nous sommes convaincus que nous vivrons aussi avec lui. Nous savons en effet que le Christ, depuis qu'il a été ramené d'entre les morts, ne doit plus mourir. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. En mourant, il est mort par rapport au péché, une fois pour toutes. Mais maintenant qu'il est vivant, il vit pour Dieu. De même, vous aussi, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Le péché ne doit plus donc régner sur votre corps mortel pour vous faire obéir aux désirs de ce corps. Ne mettez plus les diverses parties de votre corps au service du péché comme instrument du mal. Au contraire, offrez-vous à Dieu comme des êtres revenus de la mort à la vie et mettez-vous tout entier à son service comme instrument de ce qui est juste. En effet, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes pas soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu. Mais quoi ? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu ? Certainement pas. Vous le savez bien, si vous vous mettez au service de quelqu'un pour lui obéir, vous devenez les esclaves du maître auquel vous obéissez. Il s'agit soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance à Dieu qui conduit à une vie juste. Mais Dieu soit loué, vous qui étiez auparavant esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout votre cœur au modèle présenté par l'enseignement que vous avez reçu. Vous avez été libérés du péché et vous êtes entrés au service de ce qui est juste. J'emploie cette façon humaine de parler à cause de votre faiblesse naturelle. Auparavant, vous vous étiez mis tout entier comme esclave au service de l'impureté et du mal qui produisent la révolte contre Dieu. De même, maintenant, mettez-vous tout entier comme esclave au service de ce qui est juste pour mener une vie sainte. Quand vous étiez esclave du péché, vous étiez libre par rapport à ce qui est juste. Qu'avez-vous gagné à commettre alors des actes dont vous avez honte maintenant ? Ces actes mènent à la mort, mais maintenant, vous avez été libéré du péché et vous êtes au service de Dieu. Vous y gagnez d'être dirigé par une vie sainte et de recevoir à la fin la vie éternelle. Car le salaire qui paie le péché, c'est la mort. Mais le don que Dieu accorde gratuitement, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Psaume 16, versets 1 à 11. Poème appartenant au recueil de David. Ô Dieu, garde-moi, c'est à toi que j'ai recours. Je dis au Seigneur, tu es mon maître souverain, je n'ai pas de bonheur plus grand que toi. Quant aux fidèles qui sont dans le pays, c'est eux qui ont la vraie grandeur que j'apprécie. Ceux qui cherchent les faveurs d'un autre Dieu ne feront qu'augmenter leurs tourments. Je n'offrirai pas leurs offrandes de sang, je n'aurai pas même leur nom sur mes lèvres. Seigneur, toi qui es la chance de ma vie, la part qui me revient, tu tiens mon destin dans tes mains. C'est un sort qui m'enchante, un privilège qui me ravit. Je remercie le Seigneur qui me conseille, même la nuit, ma conscience m'en avertit. Je ne perds pas de vue le Seigneur et je ne risque pas de faiblir, puisqu'il est à mes côtés. C'est pourquoi j'ai le cœur plein de joie, j'ai l'âme en fête, je suis en parfaite sécurité. Non, Seigneur, tu ne m'abandonnes pas à la mort. Tu ne permets pas que moi, ton fidèle, je m'approche de la tombe. Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi. Proverbe 19, versets 20 et 21. Écoute les conseils, laisse-toi éduquer, tu finiras par devenir un sage. L'homme élabore de nombreux plans, mais seule la décision du Seigneur se réalise.
Merci Sabelle pour ta lecture et chers amis, permettez-moi de prier. Notre Père qui est aux cieux, je réfléchis maintenant sur le sens du proverbe que nous venons de lire aujourd'hui. Et je m'engage réellement à vivre selon lui. Je fais peut-être mes propres plans et je sais que ta volonté et tes plans vont prévaloir. Peu importe ce qui s'oppose à toi, différents plans, différents rêves. Seigneur, tu restes souverain, tu restes le souverain, le Seigneur, et ta volonté sera faite. Alors je m'humilie devant toi et je me soumets à toi. Je t'aime et je te prie de me mettre à l'épreuve, de me corriger, de me discipliner, de me réconforter également, et de me conduire sur ton chemin, Seigneur. Amen. Et maintenant, une petite annonce, bien entendu, si vous me le permettez. Alors, comme vous l'aurez constaté sans doute, chaque semaine, eh bien, nous changeons de version de la Bible. Mais pourquoi changer, me direz-vous ? Il y a deux raisons. En fait, la première, c'est que certains préfèrent les versions classiques ou on dira traditionnelles, tandis que d'autres, eh bien, préfèrent les versions plus modernes dans un langage d'aujourd'hui. Alors, en changeant de version chaque semaine, eh bien, nous espérons répondre à tous les goûts. Et la deuxième raison, c'est qu'en changeant systématiquement de version, nous pouvons bénéficier ainsi de la richesse des différentes versions et puis des recherches considérables qui ont été faites autour de chacune de ces versions. Alors, si vous voulez peut-être en savoir plus, je vous encourage à consulter notre site internet dailyaudiobible.fr ou cliquez à l'onglet ressources. Et puis, sur ce, bien, permettez-moi, chers amis, de vous dire au revoir et à demain pour la suite de notre podcast.